C'est l'heure de la main verte, celle d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour à tous.
Ce matin, les haies champêtres. Les haies champêtres ont un grand rôle à jouer dans le maintien de la biodiversité.
Et même davantage. Quand on évoque les haies champêtres, on pense bien sûr aux refuges pour les oiseaux, les insectes, les mammifères, grands ou petits. On pense aussi aux fleurs, aux arbustes et aux arbres, aux champignons. Mais le bénéfice de garder les haies ne se limite pas à ce que je viens de dire. Ces dernières limitent l'érosion des terres causée par le vent et favorise le maintien de certaines cultures dans les endroits les plus aérés. Pour vous donner une idée, sachez qu'une haie a des effets sur un territoire égal à 15 fois sa hauteur. Mieux encore, cette barrière végétale va permettre la réduction de l'évapotranspiration, c'est l'eau captée par les végétaux et rejetée par le feuillage.
Oui, sauf que c'est une évidence, les haies réduisent la surface des cultures.
Oui, vous l'avez dit, c'est un fait, mais il a été prouvé que les surfaces cultivées à proximité des haies offrait un rendement pouvant s'améliorer de 6 à 20%, ce qui compense très largement cette perte de place.
Et les haies champêtres sont aussi des capteurs d'énergie.
Et oui, on le sait moins. Alors pour faire simple, les haies captent la chaleur du soleil et la restituent doucement. Mieux encore, elles prodiguent une ombre qui réduit efficacement, principalement le matin et le soir, les brusques écarts de température. Les haies champêtres favorisent aussi les micro-organismes, ce qui a pour avantage premier d'accélérer la disparition d'une part non négligeable des nitrates et autres produits phytosanitaires présents dans la terre.
La cause première de la raréfaction des haies, c'est le remembrement.
Et oui, on en parle souvent et les spécialistes estiment que 2 millions de kilomètres de haies dessinaient nos campagnes au début du siècle dernier. Et puis le remembrement est devenu pratique courante et les conséquences visibles sont sans appel. Il n'en resterait aujourd'hui que 600 000.
Et fort heureusement, dites-vous, de nombreuses associations se mobilisent.
Et certaines mairies, départements et régions, il était temps. La justice aussi prend maintenant des sanctions exemplaires contre ceux qui détruisent abusivement les haies, comme cet agriculteur normand qui estimait pouvoir faire ce que bon lui semblait. Il a été condamné tout récemment à 15 000 euros d'amende avec sursis et à remettre en état les 4 km de haies qu'il avait détruits. Alors grâce à ces mesures, parfois répressives, et à une bonne prise de conscience, la situation des haies champêtres se stabiliserait, mais j'emploie le conditionnel, se stabiliserait enfin, et c'est une bonne chose pour la planète, une excellente chose.
Eh bien, merci d'avoir réhabilité ce matin les haies champêtres. Alain, vos conseils et vos réponses aux questions des auditeurs. Anne-Marie dit qu'elle a fait germer un noyau d'avocat il y a quelques années. Cet avocat mesure désormais 2,50 m. Il est en pot. Je le rentre à l'intérieur tous les hivers. Est-ce que je peux le planter dans mon jardin? Elle précise qu'elle habite dans le Midi.
Alors, à moins d'habiter dans la région la plus chaude de la Côte d'Azur, celle que l'on appelle la terre de l'oranger, qui se situe du côté de Monaco, et encore en admettant que le jardin soit protégé des vents les plus froids, non, on oubliera. Il y a une chose qui est simple. Quand vous promenez, Eric, partout en France, si vous n'avez pas l'habitude de voir dans certains lieux telle ou telle plante, c'est que tout simplement le climat
elle ne s'y plaît
permet pas.
Ça.
Tout ça, voilà. Donc on ne prend pas de risque. Cet avocat a eu la chance d'atteindre une hauteur fort respectable. Il serait quand même navrant demain qu'il soit détruit. Alors certes, le réchauffement climatique peut peut-être changer la donnée des températures dans la Côte d'Azur, mais il est encore bien trop tôt pour garantir que demain il ne gèlera pas.
Question de Mathieu. Il parle de son bougainvillier, Mathieu. Son bougainvillier perd ses feuilles alors que les autres restent en forme. Quelques infos pour le diagnostic. Mathieu précise qu'il s'agit d'un gros pot partagé avec un jasmin andalou. Il habite Barcelone. Pas le bougainvillier, Mathieu. Enfin, quoique. Ça se passe à Barcelone, en Espagne. Région ensoleillée en été, mais seulement une heure de soleil seulement en hiver.
Ouais. Alors, le jasmin, il n'y a pas de souci. Il s'agit certainement d'ailleurs du jasminum grandiflorum, à savoir le jasmin d'Espagne, qui est très beau. Le bougainvillier, j'en profite pour rappeler que ces couleurs magnifiques ne sont pas dues à des fleurs qui sont insignifiantes, mais à des inflorescences. En fait, ce sont des feuilles qui se teintent, pour faire très simple, de couleurs. Donc, c'était une petite précision. Le bougainvillier résiste aux températures basses de jusqu'à moins 5 degrés, mais il est vrai qu'en hiver, s'il manque de soleil, s'il y a du froid, il va en réaction perdre son feuillage. C'est fréquent. Le bougainvillier est persistant, mais il peut perdre ses feuilles quand il a froid. Alors, c'est pas très bon pour lui. Il redémarre tous les ans, mais la raison qui fait que notre plante devient caduque, c'est le froid. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
Sophie vous demande, Alain Baraton, quel est le meilleur moment pour planter les astères?
Les astères, on va faire simple. Eh bien, les astères qui fleurissent en été, parce qu'il y a deux sortes d'astères, ceux qui fleurissent en été et ceux qui fleurissent à l'automne. Ceux qui fleurissent en été, eh bien, se plantent tout simplement au printemps. Quant à ceux qui fleurissent, eh bien, comment dire, de septembre à peu près à octobre-novembre, se plantent tout simplement à l'automne de l'année précédente.
Herbert vous demande « Quand puis-je semer des ignaces pour avoir le plus tôt possible, pour les avoir le plus tôt possible dans mon jardin ?»
J'adore le zinnia, c'est une plante qui me rappelle mon enfance. On dirait des grosses marguerites avec des couleurs très, très, très agréables, jaune, orange, rose, blanche, il y a toutes les couleurs. La tige, c'est vraiment la fleur telle que vous la dessinez. Si vous ne saviez pas dessiner, Eric, vous la dessinez sur une tige rigide, comme une grosse pâquerette, c'est le zinnia. Et c'est une plante qui est un peu frileuse. En dessous de 18 degrés en février-mars, elle n'aime pas beaucoup. Donc, on va pouvoir la semer à partir de mars, à condition que la température soit supérieure à 18 degrés. Donc, soit une serre, soit une véranda. Sinon, on attendra le mois de mai pour semer avec davantage de réussite, de chances de réussite. Pour être précis.
Et quand un enfant dessine une fleur spontanément, c'est souvent, sans le savoir, un ou une zinnia.
Un zinnia. C'est une plante qui s'emploie au masculin.
Nadia vous demande, est-il exact que la culture des bégonias annuelles est compliquée ?
Très compliquée, c'est la raison pour laquelle on en voit de moins en moins. Parce que le bégonia se sème dans des terrines de terre de bruyère, d'ailleurs, avec beaucoup de terre de bruyère en janvier. Il faudra les repiquer au mois de mars. On va ensuite les planter au début du printemps. Ce sont des opérations complexes. Il faut avoir des serres, il faut avoir des lieux très lumineux, des lieux chauffés. Donc, produire soi-même les petits bégonias pour le jardin n'est pas chose aisée.
Merci Alain. Un conseil pour jardinage pour le week-end ?
Non, pas de conseil. Le conseil, vu le temps.
Et au nom de quoi ?
Parce qu'il fait un temps pourri partout en France.
Et alors, c'est pas une raison pour pas lire des livres ?
Eh bien, justement, on en profite pour rester chez soi, faire la sieste.
Donnez-nous des conseils de lecture.
Conseil de sieste aujourd'hui.
Vous savez que plus le temps est mauvais et plus les auditeurs sont nombreux derrière le poste de radio. Merci beaucoup Alain Baraton et à samedi prochain. À samedi.